Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Une rencontre bilatérale qui ne figurait pas au sommaire du G7 de Biarritz. Un tête-à-tête Yves Le Drian, Mohammad Jawad Zarif et la question du nucléaire iranien, ainsi travaillé par l'Elysée. Précision avec à Biarritz Bertrand Galichet, invité de ce journal, le spécialiste de l'Iran Thierry Coville. Toujours au G7, l'Afrique et l'aide au développement aident un continent aux ressources pillées par des mastodontes économiques. Quels antidotes ? Question posée à Sébastien Bayeul, porte-parole d'Alternative G7. Israël revendique les frappes de la nuit dernière sur des intérêts iraniens en Syrie, dans les environs de Damas. Revendication express en pleine campagne électorale, correspondance de Jérusalem. Et puis, dernier tapis-titre pour le soir 3, édition phare 40 ans d'âge, qui demain basculera sur France Info TV à 23h, dossier suivi par Bastien Roch. Mais tout d'abord, dans le droit fil du président bolivien Evo Morales, qui demande une réunion d'urgence au pays qui compose l'organisation du traité de coopération amazonien, le chef de l'État colombien Iván Duque appelle à l'aide internationale pour préserver l'Amazonie et le Brésil. Eh bien, le Brésil lutte contre ces feux sans fin qui ravagent la forêt, le poumon de la planète. C'est une correspondance de Juliette Onça de RFI.
Les images des avions survolant l'Amazonie font la une de la presse brésilienne. Depuis ce matin, 44 000 militaires sont mobilisés pour lutter contre les flammes dans 6 des États qui composent l'Amazonie brésilienne. Le ministère de l'Économie vient d'annoncer débloquer immédiatement 38 millions de réals, environ 8 millions d'euros pour soutenir les troupes mobilisées par le ministère de la Défense. Les derniers chiffres de l'Institut des Recherches Spatiales, l'INPE, avaient déjà prévu cette augmentation des feux de forêt. Depuis le début du mois d'août, plus de 78 000 nouveaux foyers ont été recensés. C'est 84% de plus par rapport à la même période en 2018. L'ancienne ministre de l'Environnement, Marina Silva, dénonce ce matin les pratiques du chef de l'État, qui a placé, selon elle, au ministère de l'Environnement, Ricardo Salles, un climato-sceptique et a commis toutes les erreurs possibles pour détruire la forêt. Après avoir accusé Jair Bolsonaro de mentir quant à ses engagements en faveur du climat, Emmanuel Macron, depuis le G7 à Biarritz, vient de promettre d'aider le plus rapidement possible les pays affectés par les incendies, tout en disant respecter la souveraineté du Brésil, voisin du département région d'outre-mer de la Guyane française. Sur Twitter, Jair Bolsonaro adresse un grand merci aux dizaines de chefs d'État qui l'ont entendu et nous aide à dépasser une crise qui intéresse ceux qui veulent affaiblir le Brésil. Fin de citation. Une déclaration qui vise indirectement le président français, qualifié par Bolsonaro de sensationnaliste et colonialiste. L'Argentine a aussi prévu d'envoyer 200 pompiers en renfort sur le territoire brésilien.
Juliette Onça de RFI à Sao Paulo et puis Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux, ex-députée de la Guyane, lance un appel aux dons et suggère que soit organisée au plus vite une conférence des donateurs. Avant de se rendre à Biarritz pour y retrouver Bertrand Galichet, notre envoyé spécial, autre continent, autres urgences. L'aide au développement des pays africains et la lutte contre les prédations économiques, enjeu traité cet après-midi au G7 en présence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de l'Égypte, du Sénégal ou encore du Rwanda. Quel partenariat avec l'Afrique, Nicolas Ballu a sollicité Sébastien Bayeul, porte-parole d'Alternative G7.
Il y a différents leviers. On a en France des organisations, par exemple, de solidarité internationale, qui travaillent au quotidien avec des partenaires africains sur le développement d'économies locales, d'agriculture paysanne, pour développer les moyens économiques nécessaires aux populations pour pouvoir vivre dignement. Ça passe en France par notamment l'augmentation d'une aide publique au développement qui est clairement en dessous des taux des autres pays européens. Ça passe aussi par faire en sorte que les peuples des pays africains, les populations, puissent au même titre que dans d'autres pays, déterminer des besoins et des solutions pour les enjeux qui les concernent. Finalement, quand on regarde la démocratie, les démocraties dans certains pays africains, elles sont sur le même modèle que les nôtres, c'est-à-dire que la place des citoyennes et des citoyens n'est pas suffisamment satisfaisante pour que chacun puisse prendre part au débat. Et puis enfin, il y a un enjeu très fort justement sur l'activité des multinationales qui, depuis des années, continue à profiter des matières premières, s'implanter dans ces pays-là en ayant un retour économique plus qu'intéressant, notamment pour leurs actionnaires, mais aucun retour sur les territoires dans lesquels ils sont implantés. Donc il y a un vrai enjeu de régulation de ces pratiques des multinationales.
Sébastien Bailleul, porte-parole d'Alternative G7. Emmanuel Macron a dû revenir dans la matinée sur une déclaration dégainée à la hâte. On l'apprenait justement en milieu de matinée qu'il avait reçu mandat du G7 pour parler nucléaire avec Téhéran. Donald Trump a contredit le président français, dont acte. Quelques heures plus tard, l'avion du ministre iranien des Affaires étrangères se posait à Biarritz. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir.
Bertrand, comment les délégations du G7 ont-elles reçu cet imprévu, imprévu entre guillemets ?
Eh bien, Mohamed Javad Zarif est venu rencontrer son homologue français Jean-Yves Le Drian en marge de ce G7 où les Iraniens, vous le savez, ne sont pas invités. Pour l'instant, aucun autre entretien n'est annoncé dans le cadre de cette initiative française pour tenter de faire avancer le dossier de l'Iran. C'est donc moins un coup de théâtre qu'une forme de forcing diplomatique de la part de la France. La venue du ministre iranien des Affaires étrangères ici sur les lieux du G7 a été gardée secrète jusqu'au dernier moment. Une arrivée surprise, découverte quand l'avion de Mohamed Javad Zarif s'est posé à Biarritz et qui a provoqué, vous l'imaginez, une certaine agitation parmi les centaines de journalistes présents sur le site du G7 au cœur de Biarritz.
Bertrand, quel impact ces échanges en cours peuvent-ils avoir sur la brouille américano-française ?
Eh bien, de sources diplomatiques françaises, on laisse entendre que les États-Unis étaient informés de cette visite. C'est un point important compte tenu du malentendu de ce matin entre Emmanuel Macron et Donald Trump sur le message que la France est censée délivrer à l'Iran au nom du G7, le président américain ayant démenti en avoir discuté avec son homologue. Le président français a finalement apaisé les choses en déclarant que l'important était de résoudre la crise et peu importe grâce à qui. L'Élysée, naturellement, ne pouvait pas prendre le risque de voir Donald Trump considérer cette visite comme une provocation.
Merci à vous, Bertrand Galichet, en direct de Biarritz. Bonsoir Thierry Coville.
Oui, bonsoir.
Chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Thierry Coville, qu'est-ce que tente la France ?
La France tente de donner un cadre à des négociations qui sont au point mort, qui n'ont même pas commencé. Donc je pense que c'est une bonne stratégie. On sait très bien qu'il y a une impasse. Hein. Les Américains mettent une stratégie de pression maximum avec des sanctions qui dévastent l'économie iranienne. Les Iraniens refusent de leur parler. Donc je pense que l'initiative française et européenne de mettre un cadre, de créer un cadre pour des négociations entre deux pays est la bienvenue.
Dans quelle mesure ces échanges au niveau des chefs de la diplomatie peuvent-ils faire bouger les lignes, tout simplement?
Comme je vous le répète, on sent bien qu'il y a une impasse. Elle est dangereuse, en plus, que c'est quand même une situation. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois avec les incidents dans le Golfe. Donc, moi, je pense que c'est la bonne manière de débloquer la situation. Je pense que le cadre de la négociation, il semble clair, si j'ai bien compris, c'est que d'un côté, les Français demandent aux Américains de diminuer les sanctions pendant quelques mois, et en échange, voir ce qui est demandé aux Iraniens, c'est sans doute des négociations interviendraient, alors peut-être dans le cadre du 5+1, vous savez, tous les pays qui ont signé l'accord nucléaire de 2015.
De 2015, oui.
Mais l'idée de commencer en demandant aux Américains de diminuer les sanctions est la bonne stratégie, parce qu'autrement, il n'y aurait jamais eu de discussion possible avec les Iraniens.
D'ailleurs, à l'instant, on échange tous les deux, et je vois l'Iran veut pouvoir exporter un minimum de 700 000 barils de pétrole brut par jour. Et tout de suite, l'Iran donne un curseur.
Écoutez, ils avaient dit même 1 500 000 il y a quelques mois. Il faut voir qu'ils sont arrivés, je crois, à 300 000 barils par jour. Donc c'est catastrophique pour leur économie, parce que les exportations de pétrole, c'est à peu près 80% de leurs exportations.
Alors, l'Iran a invité à échanger en lieu et place d'un G7, on dit en marge, le terme est impropre, je pense, mais est-ce que c'est pas prendre ce pays au sérieux ?
Oui, moi je pense.
D'une certaine manière.
Je pense que c'est pour ça que la France joue un rôle utile si je peux dire, intelligent, parce que, si vous voulez, on sait très bien, mais ça fait des années, les Américains savent très bien que, si vous voulez, insulter l'Iran, les condamner, les mettre au banc des nations, bon, ça fait peut-être plaisir sur le plan de la politique intérieure, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Surtout que c'est quand même un pays qui a une culture de l'honneur très importante. Donc l'important, c'est de les prendre au sérieux, de discuter avec eux. On peut ne pas être d'accord, mais de jamais couper les négociations, de créer de la confiance. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'a fait le président Emmanuel Macron ces dernières semaines.
Est-ce que là, on a affaire à l'aboutissement de tout un tas de consolidations, en amont de ce G7, bien sûr, y compris avec M. Rouhani, au-delà de M. Zarif, non ?
Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on sait que depuis, on va dire, 2 ou 3 mois, je pense que Emmanuel Macron discute régulièrement avec le président iranien, que c'est pas rien, parce que Hassan Rouhani, même c'est le numéro 2 du système, hein, derrière le guide Ali Khamenei, c'est quand même un personnage très important en Iran, et je pense qu'il y a une certaine confiance qui s'est établie, qui est capitale en Iran, hein, si on veut réussir quelque chose. La France peut-être a acquis une certaine crédibilité, et elle utilise cette crédibilité effectivement pour créer, comme je vous le disais, le cadre de cette négociation entre l'Iran et les États-Unis.
Dernier point, et rapidement, merci d'avance Thierry Coville, comment les États-Unis et surtout Donald Trump peut-il réagir à ce genre d'audace, entre guillemets, diplomatique?
Je pense qu'il n'est pas forcément contre, parce que si vous vous rappelez ces dernières semaines, il a dit « j'ai envie de discuter avec les Iraniens », donc il se rend bien compte lui-même que sa stratégie ne marche pas. Le problème, c'est comme pour d'autres choses avec Donald Trump, c'est qu'il faut qu'il présente ça comme une victoire. Donc on verra ensuite comment l'intervention de la France sera présentée par Donald Trump, mais il veut montrer qu'il est toujours le maître des événements.
Très bien, merci beaucoup, merci Thierry Coville d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Deux combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah et un Iranien justement ont été tués dans des raids menés par Israël en Syrie la nuit dernière sur les environs de la capitale Damas. Information que l'on doit à l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les raids israéliens menés la nuit dernière en Syrie ne sont pas les premiers depuis le début de la guerre en 2011. Loin de là, on les compte par centaines, mais ces dernières frappes ont été confirmées sans tarder. Alice Froussard nous appelle de Jérusalem.
Ces frappes résonnent comme un aveu évident de la nouvelle stratégie du pays, élargir son champ d'action au Proche-Orient et le revendiquer, notamment pour contrer l'influence militaire de l'Iran. L'aviation israélienne est également accusée d'être à l'origine de frappes en Irak un peu plus tôt cette semaine, révélation du New York Times. Dans ces raids aériens, là aussi, les dépôts d'armes visées appartenaient à des milices chiites liées à l'Iran. En tout cas, la confirmation des frappes de ce matin n'est pas habituelle. Israël reconnaît très rarement de telles interventions et c'est la première fois que l'armée communique aussi rapidement. Rappelons-le, hein, ces incidents ont lieu en plein contexte électoral dans le pays, moins d'un mois avant les élections législatives en septembre. Un scénario qui, selon des experts, rappelle celui des dernières élections en avril. Lorsque la campagne a démarré, le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'avait jamais autant reconnu intervenir militairement à l'étranger.
Il est 18h12, vous écoutez le journal de France Culture. Clap de fin pour le journal d'information Soir 3 qui tire sa révérence aujourd'hui. C'est la fin d'un rendez-vous vieux de 40 ans pour les téléspectateurs de France Télévisions. Un journal similaire avec les mêmes journalistes doit voir le jour sur France Info TV, TV Info, pardon, à 23h dès demain. Bonsoir Bastien Roch.
Bonsoir.
Bastien, un choix stratégique qui ne passe toujours pas auprès de certaines équipes de France 3.
Oui, la décision a beau avoir été annoncée il y a 6 mois, la pilule a toujours du mal à passer auprès d'une partie de la rédaction qui se mettra d'ailleurs en grève dès demain. C'est donc le cœur lourd que les journalistes diront au revoir aux téléspectateurs de France 3 ce soir. Pour Serge Simino, délégué SNJ à France 3, c'est une désolation.
La première impression, c'est celle-là, c'est d'avoir perdu un grand morceau de son histoire et aussi de son travail au quotidien, c'est-à-dire d'informer le public. C'est aussi de ne plus remplir en partie sa mission de service public, parce que mais aussi une rupture du contrat avec les téléspectateurs. Donc voilà, c'est ce double sentiment d'une disparition programmée, d'une suppression incompréhensible, qui à la fois fait beaucoup de mal aux journalistes de la rédaction, mais aussi qui coupe ce lien de fidélité avec nos téléspectateurs.
Soir 3 est mort, vive le 23h. Le journal de fin de soirée disparaît des écrans de France 3, mais une partie de son équipe devrait se retrouver dès lundi à la fabrication du nouveau JT à 23h sur France TV Info. Ce choix doit permettre d'apporter plus de visibilité à la chaîne d'information en continu, une position défendue par Alexandre Cara, directeur de France Info.
On espère que le programme ambitieux qu'on propose sera suivi. On espère aussi permettre à des gens qui, jusqu'à présent, sur France 2, sur France 3, sur France 5, n'avaient pas forcément encore le réflexe France Info de venir nous retrouver. Ce qui nous handicape un peu aujourd'hui encore, c'est un déficit de notoriété, puis la difficulté encore d'aller tout au bout de la TNT sur le canal 27, ce qui n'est pas toujours facile pour les gens qui n'ont pas cette habitude.
Faire passer les téléspectateurs de France 3 sur France Info, c'est donc le pari osé de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Mais pour Serge Simino, le compte n'y est pas du tout.
C'est une erreur industrielle. Que cherche France Télévisions dans cette opération? Ce n'est pas d'essayer de retrouver le niveau du soir 3. Ils savent très bien que c'est impossible. C'est d'en récupérer une toute petite partie pour être au niveau des autres chaînes info. Donc bien évidemment que c'est un gros sacrifice. Et quel sacrifice? On voit bien que France 3 dans cette affaire ne pèse pas grand-chose et que l'objet convoité par la présidente qui est la réussite de France Info est la seule priorité.
Les téléspectateurs de France 3, de Soir 3, pardon, qui basculeront sur France Info retrouveront un visage bien connu, celui de Patricia Loison. La journaliste a présenté Soir 3 de 2011 à 2015. Une manière aussi pour le groupe d'affirmer un peu plus la continuité entre l'ancien et le nouveau journal.
Merci à vous, Bastien Roch. La météo de demain lundi, temps mitigé donc en Bretagne et estivale sur le reste du pays. 85 départements français sont placés depuis mercredi en restriction d'eau plus ou moins sévère. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia, à la technique Clément Daté.